Le dernier candidat, c'est celui de Chantal, Stéphane Durand, donc, du Centre de recherche mathématique de l'Université de Montréal. Il arrive en studio, c'est le dernier.
Et donc, vous êtes prêt?
Oui. Je vais donc tenter de présenter la relativité en quatre points. Premier point, peut-être le plus extraordinaire, le temps peut ralentir. Le temps n'est pas absolu, il est relatif. Il ne s'écoule pas nécessairement à la même vitesse pour tout le monde. Et je ne parle pas du temps psychologique, subjectif. Je parle du temps réel, qui nous fait physiquement vieillir. Donc, ce temps peut ralentir. Comment? Grâce à la vitesse. Tout simplement, si je me déplace assez vite, mon temps va s'écouler plus lentement. Pourquoi n'a-t-on pas conscience de ce ralentissement du temps? Parce que les vitesses, dans la vie ordinaire, sont beaucoup trop petites. Il faut aller à des vitesses proches de celle de la lumière, qui est une vitesse incroyable, pour que l'effet soit perceptible. Ce qu'on n'est pas encore capable de faire, même avec nos fusées les plus rapides. Mais on peut le faire en laboratoire, et donc en laboratoire, on vérifie que le temps peut bel et bien ralentir, c'est un fait. Deuxième point, comment le temps peut-il ralentir? La réponse est assez surprenante, parce que le temps est une quatrième dimension. Ou plus précisément, parce que contrairement à ce que nos sens semblent nous indiquer, nous ne vivons pas dans un espace à trois dimensions, mais dans un espace-temps à quatre dimensions. L'espace et le temps doivent être fusionnés en un seul tout, qu'on appelle justement l'espace-temps. Nous ne percevons donc qu'une facette de la réalité, un peu comme l'ombre d'un objet n'est qu'une facette de l'objet. Similairement, ce que nous appelons l'espace et le temps ne sont que des projections dans notre monde sensible d'une réalité inaccessible possédant une dimension de plus. Troisième point. Comme l'espace et le temps, la matière et l'énergie ne sont aussi que deux facettes d'une même entité qu'on appelle matière-énergie. Ça implique que la matière et l'énergie peuvent se transformer l'une dans l'autre. De quelle façon? Via la fameuse équation E égale MC2. E veut dire énergie, M veut dire matière, donc énergie égale matière, ça veut dire qu'on peut transformer de l'énergie en matière et vice-versa. C'est justement ce qui se passe dans le Soleil et dans une centrale nucléaire. De la matière est transformée en énergie. Mais le plus extraordinaire, c'est le contraire. Quand de l'énergie pure, par exemple de la lumière, se transforme en matière. On peut donc transformer du non-tangible, de la lumière, en du tangible, une table, par exemple. Cela remet donc en question la notion même de matière dans le sens que la solidité des objets n'est qu'un genre d'illusion. Quatrième point. L'espace-temps et la matière-énergie sont aussi intimement liés. En effet, la matière-énergie déforme l'espace-temps, le courbe, et à son tour, cette déformation gouverne le mouvement incurvé des planètes autour du Soleil, par exemple. La gravité n'est donc pas une force, comme on le pensait avant, mais plutôt l'effet de la courbure de l'espace-temps. Et cette nouvelle vision de la gravité permet de comprendre la dynamique non seulement des objets dans l'univers, mais de l'univers lui-même. En appliquant les équations d'Einstein à l'univers, on a découvert que l'univers lui-même a une évolution, il a eu une naissance, le fameux Big Bang, et il aura une mort.
Bravo Stéphane Durand, donc une belle chute, hein, on parle, oh, j'ai pas le droit de commenter.
Tout à fait remarquable, encore une fois, trois minutes, une belle chute, c'est magnifique, nos invités sont remarquables, vous avez un cadeau à offrir
certainement
à Stéphane.
Certainement, j'ai un cadeau à lui faire.